Et voici le journal de l'Écho, signé Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'aide financière à l'Ukraine est discutée ou rediscutée aux États-Unis, en Europe et en France. Et après 2 ans de guerre, elle suscite désormais plus d'opposition, loin de la quasi-unanimité des débuts. Hier, Washington a annoncé une nouvelle aide militaire de 300 millions de dollars, un montant bien éloigné de la somme totale qu'espérait pouvoir négocier le président américain. Mais qu'en est-il sur place, en Ukraine même, ou depuis le début du conflit, la société civile ukrainienne aussi participe très activement au financement de la résistance face à l'invasion russe. C'est le décryptage Écho de Camille Magnard ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Camille, vous êtes en ce moment l'envoyée spéciale de France Culture à Kiev, où depuis 2 ans, l'effort de guerre se mobilise aussi sur Internet.
Oui, dès les premiers jours de l'invasion russe, des simples citoyens actifs sur les réseaux sociaux, et ils sont nombreux, en particulier chez les jeunes Ukrainiens qui travaillent dans l'économie numérique, ont lancé des cagnottes en ligne pour collecter de l'argent destiné à financer du matériel pour les soldats partis au front. Démarche spontanée qui s'est rapidement propagée, chacun sollicitant son entourage pour aider la brigade d'un proche ou d'une région. Une aide d'autant plus nécessaire que l'armée ukrainienne n'avait pas les moyens d'équiper correctement ses recrues. Au départ, les collectes de dons finançaient des uniformes, des gilets pare-balles ou du matériel médical, mais progressivement, elles ont permis d'acheter des voitures, des drones ou bien des fusils d'assaut. Sans cette forme de financement populaire, l'Ukraine n'aurait clairement pas résisté aussi bien à l'agression russe, nous dit l'économiste Igor Burakovsky. Il dirige l'Institut de recherche économique et de conseil politique à Kiev.
L'an dernier, les 3 plus grosses fondations ukrainiennes ont récolté environ 430 millions d'euros de dons. Donc, selon moi, en extrapolant à toutes les autres formes de collecte, on peut estimer qu'il y a environ 1 milliard d'euros qui sont mobilisés chaque année de cette manière.
Oui, mais Camille, avec la guerre qui dure depuis plus de 2 ans, cet élan de solidarité ukrainien montre des signes d'essoufflement.
C'est ce que constatent en tout cas plusieurs organisateurs de cagnottes en ligne à qui j'ai posé la question. Et c'est une tendance confirmée par notre économiste Igor Burakovsky.
Des études récentes montrent que le volume global des dons a un peu diminué. C'est lié au fait que les Ukrainiens s'appauvrissent. C'est la guerre et c'est difficile pour tout le monde. Mais malgré tout, on note que le nombre de gens qui font des dons, régulièrement ou pas, reste globalement stable.
Des Ukrainiens qui donnent toujours, mais qui donnent moins. L'économie populaire des cagnottes en ligne doit donc revoir ses méthodes pour motiver les donateurs, attirer leur attention sur les réseaux face à la profusion des sollicitations. Ça donne un secteur qui se professionnalise, qui adopte les techniques du marketing digital en misant sur des contenus percutants, photos, vidéos, en promettant des contreparties ou des récompenses aux donateurs les plus généreux. Ça peut aller d'une ration militaire à un éclat d'obus décoré par un soldat dans les tranchées ou même une voiture dans les cas les plus extrêmes. Tout ça pour maintenir coûte que coûte ce lien entre ceux qui sont sur le front et ceux qui sont à l'arrière et qui veulent participer autant qu'ils le peuvent à l'effort de guerre.
Camille Magnard, depuis Kiev, merci pour ce décryptage à retrouver à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture et à réécouter sur l'appli Radio France. C'est la conséquence logique du record de bénéfices enregistré par les entreprises du CAC 40 en 2023. Les dividendes sont montés eux aussi à un niveau record. Les sommes reversées à leurs actionnaires par ces entreprises françaises ont atteint 63,2 milliards d'euros, une hausse de 8,70% sur un an et de 31% par rapport à 2017. Dans le détail, la contribution la plus importante à cette croissance des dividendes est pour l'énergéticien Engie, qui représente un quart de l'augmentation en France. L'Oréal, Hermès, Safran ou encore Vinci ont également nettement augmenté leurs versements. La croissance française, pourtant révisée à la baisse au lendemain de la parution du rapport de la Cour des comptes, qui estime justement que les prévisions du gouvernement étaient trop optimistes. La Banque de France a estimé ainsi hier à 0,8% contre 0,9% auparavant la croissance du PIB pour 2024. Elle prévoit également que le pays repasse sous la barre des 2% d'inflation sans entrer pourtant en récession. La consommation des produits pétroliers en France, elle a baissé de 1,6% l'année dernière, un recul très insuffisant au regard des objectifs climatiques. Les chiffres sont donnés par l'UFIP, le syndicat professionnel des entreprises pétrolières, qui précise qu'en 2023, la consommation totale des produits pétroliers pour les carburants, fioul domestique, lubrifiant, bitume ou encore matières premières pour la pétrochimie a atteint 65 millions de tonnes, un recul qui reflète surtout le déclin du diesel, tandis que la demande d'essence sans plomb, elle, ne faiblit pas. Enfin, c'est un secteur qui a perdu plus de 50% de sa valeur en 10 ans, celui de la distribution de prospectus publicitaires. Le distributeur Millet, ex-Adrexo, en difficulté depuis des années, a ainsi annoncé un plan de réorganisation qui pourrait conduire à la suppression de 3500 emplois en France. Des emplois à temps partiel, très souvent occupés par des personnes âgées qui cherchent un complément à leur retraite. Le distributeur va également cesser les publicités non adressées dans les boîtes aux lettres. 400 postes devraient en outre disparaître dans l'activité livraison de colis qui faisait de la sous-traitance pour Chronopost notamment.